Bonjour à tous et soyez les bienvenus au milieu de nous ce matin. C'est avec tellement de joie qu'on se retrouve encore pour ce dimanche. Alors, comme vous le voyez, pour l'instant, on est encore en ligne. Vous êtes beaucoup derrière votre écran et tout doucement, on est en train de préparer la reprise ensemble. Mais ce matin, on a quelque chose à vivre. Et qu'on soit derrière notre écran ou au présentiel, qu'on soit là ou qu'on soit, que vous regardiez à ce moment-là ou que vous regardiez ce soir, je crois que Dieu a quelque chose qu'il va vous dire, qu'il va partager avec vous dès ce matin. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse préparer nos cœurs ce matin. Qu'on puisse dire, Seigneur, je ne veux pas vivre ce matin ce culte si tu ne me dis pas quelque chose, si tu ne viens pas me chercher. Je ne veux pas vivre à moitié ce culte, je veux le vivre complètement parce que tu as quelque chose pour moi. Je ne veux pas dire, Seigneur, je viens là, je m'installe et puis on verra bien si je suis prêt ou pas. Non, Seigneur, je veux me préparer à entendre le message que tu as à me transmettre. Vous savez, quand nos cœurs sont prêts, on est comme cette terre malléable. Et quand tu plantes la graine, les choses vont pousser, les paroles de Dieu vont pousser à partir du moment où ton cœur est prêt. Et le désir de mon cœur ce matin, et le désir de notre cœur avec l'équipe pastorale, avec l'équipe de louanges, c'est que vous puissiez vivre un moment où Dieu va vous percuter, où Dieu va vous faire du bien. Alors, on est tellement heureux d'être ensemble ce matin. Et j'aimerais commencer en lisant ce texte. Et peut-être c'est pour toi qui regardes ton écran ce matin. Ce texte nous dit, il se trouve dans Romains 8, 15 à 17. Et il nous dit, en effet, « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non. » Vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même rend compte à notre esprit et nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Et ce matin, l'encouragement que j'aimerais te laisser, c'est que tu n'as plus à être dans la crainte. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne sais pas ce qui, dans cette semaine, peut-être t'a terrassé, dans cette semaine t'a bloqué, dans cette semaine a développé chez toi des craintes et des peurs. Mais en regardant à Jésus ce matin, en tournant tes regards vers celui qui fait de toi son fils adoptif, tu as la possibilité de ne plus être dans la crainte, mais de vivre en tant que fils et fille du roi des rois. J'aimerais qu'on ferme les yeux ce matin et qu'on prie, qu'on prépare nos cœurs et qu'on dise « Seigneur, je ne suis plus esclave de la peur, je suis fils et fille du roi des rois. » Seigneur, ce matin, on est devant toi. Non pas par habitude ou non pas parce que c'est comme ça qu'on fait à chaque fois, mais parce que ce matin, il y a un rendez-vous divin pour chacun d'entre nous, un rendez-vous que tu as fixé afin que nous puissions expérimenter la libération, la liberté en Jésus. Car là où est l'Esprit, là est la liberté. Ce matin, je te prie pour tous ceux qui viennent avec des craintes, des doutes, des inquiétudes, afin qu'ils puissent saisir à nouveau que tu es notre Papa céleste, que nous sommes fils et filles du Roi des Rois, et que nous pouvons nous plonger littéralement dans les bras du Père qui prend soin de nous. Je te bénis de ce que ce matin, tu vas nous faire du bien. Je te prie pour la louange et l'adoration, je te prie pour l'équipe de louange, afin que tu les conduises. Je te prie pour RP dans le message, afin qu'on puisse ensemble découvrir où est le vrai bonheur. Et dans toute la direction de ce culte, viens nous remplir, viens nous inonder, viens parler à nos cœurs. C'est à toi que revient toute la gloire, l'honneur, la puissance et la force, au siècle des siècles. Amen.
Amen.
Psaume 34, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche.
Psaume 103. Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom.
Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverse ta bienveillance.
Béni soit ton nom.
Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue,
béni soit ton nom.
Tes bienfaits font naître en moi les chant de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.
Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom.
Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrances, si mon coup d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Oui, béni, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Merci pour ton nom, il est grand, il est glorieux. Merci pour ta bonté, ton amour, ta grandeur, ta fidélité. Ce matin, nous voulons considérer ta justice, ta miséricorde. Tu nous donnes aussi de vivre dans la justice et tu nous donnes de vivre dans la miséricorde. Par ta grâce, tu nous donnes ce que nous ne méritons pas. Et dans ta miséricorde, tu ne nous donnes pas ce que nous méritions par nos fautes et par notre éloignement, notre séparation de toi. Alors Seigneur, ce matin, vraiment merci pour qui tu es et pour ce que tu fais dans nos cœurs. Tu transformes nos vies. De ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable,
inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu le miracle, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu.
Merci Seigneur pour ce moment. Merci parce que tu es au milieu de nous et tu es présent. Ton esprit est présent. Par ces moments, nous voulons vraiment te donner toute la louange, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Nous te glorifions, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce ce matin, merci pour ce moment. Et nous te donnons tout, puisses-tu recevoir tout ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions.
Ô Dieu, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu es. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être là, rassemblés avec mes frères et sœurs, afin de te louer. Pour la grâce que tu nous accordes ce matin de nous tenir là dans ta présence. Ô Jésus, merci, Seigneur, parce que nous sommes dans la liberté de te louer. Car celui qui s'approche de toi, Seigneur, est libre. Merci de conduire ces moments et de bénir aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en direct et qui nous suivront en différé également. Amen.
L'Église crie la victoire de Jésus-Christ ce matin. Il est mort, il est ressuscité. Tu étais au commencement, seul auteur de la création. Toi, tout est perfection, tu subsistes éternellement. Toi, la vérité incarnée, qui tient l'épée à deux tranchants. Ta parole reflète ta sainteté, juste et bon sans tes jugements. Tous ensemble! Ton Église proclame Jésus notre Sauveur, déclaré Fils de Dieu avec force et puissance. Ton Église proclame.
Saint-Esprit qui t'a révélé. La mort perd son pouvoir, toi qui détiens l'autorité, tous reconnaîtront ta gloire. Libéré par ton pardon, tu nous offres cette vie nouvelle. Vous êtes entiers, nous abandonnons les yeux fixés vers le ciel. Ton Église proclame Jésus notre sauveur, déclaré Fils de Dieu avec force et puissance. Ton Église proclame Jésus notre Seigneur. Tu es vainqueur et apporte la délivrance. Nous reconnaissons ta grandeur, affranchis. Nous vivons pour ton ta grandeur affranchie. Nous vivons pour ton honneur.
Posterner.
Nous reconnaissons ta grandeur affranchie. Nous vivons pour ton honneur.
Ton Église proclame Jésus notre sauveur,
déclaré Fils de Dieu avec force et puissance. Ton Église proclame Jésus notre Seigneur. Tu es apporte la délivrance.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.
Alléluia.
Gloire à Jésus.
Merci pour ta délivrance. Merci parce que tu es grand. Parce que ta parole est puissante. Esprit en nous, comble nos vies, change nos vies,
amen.
Nous donne le véritable bonheur,
amen.
Le bonheur c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, d'avoir une relation personnelle avec toi, d'être en paix avec toi, en paix avec nous-mêmes, en paix avec les autres. Merci parce qu'il est possible de connaître cette harmonie intérieure,
amen.
Mais aussi cette solidité intérieure. Tu nous donnes notre véritable identité. Nous savons qui nous sommes vraiment en Christ. Seigneur, il y a tant de choses que tu fais en nous qui nous dépassent. Tu es admirable. Te remercions pour le bonheur qui est à la portée de tous. Nous ne sommes pas des privilégiés. C'est un véritable cadeau que tu nous fais que de te connaître et de connaître le bonheur qui se trouve en Jésus. Mais ce bonheur est accessible à tous. Ce matin, celui qui s'approche de toi peut connaître cette paix intérieure, ce bonheur dont tu parles et que tu proposes. Quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bat pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons,
chantons, chantons
d'un cœur joyeux, grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance. Quand à nos yeux il se fit voir, chantant, chantant,
chantant,
un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous. Des cieux et nous sauva du destructeur. Nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, Satan fut dompté. Chantons, chantons,
chantons, chantons
d'un cœur joyeux,
d'un cœur joyeux,
le grand amour du Rédempteur qui vint à nous,
qui vint à nous
du haut des cieux,
qui nous sauva du destructeur.
Vers l'avenir marchant sans crainte et sans souci du lendemain, pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons,
chantons, chantons
d'un cœur joyeux,
d'un cœur joyeux,
le grand amour du Rédempteur qui vint à nous,
qui vint à nous
du haut des cieux
et nous sauva du destructeur.
Chantons, chantons, chantons,
chantons, chantons
d'un cœur joyeux,
d'un cœur joyeux,
le grand amour du Rédempteur qui vint à nous,
qui vint à nous
du haut des cieux
et nous sauva
du destructeur.
Est-ce qu'on peut lui dire notre reconnaissance? Merci Seigneur.
Amen.
Alléluia, c'est d'un cœur joyeux que nous voulons chanter notre Rédempteur. Vous savez, il y a parfois des moments dans la semaine où on se dit, mais Seigneur, comment rester joyeux face à ce par quoi je suis en train de passer? Mais ce chant va nous ramener à quelque chose juste d'extraordinaire, de savoir que c'est parce que Jésus a tout donné que nous pouvons être joyeux. Et la joie n'a rien à voir avec un sourire de façade, mais elle est dans notre cœur, de savoir que nous appartenons au roi des rois, que nous sommes fils et filles du roi des rois. Et c'est tellement bon. C'est vrai qu'on peut se dire, est-ce que je peux le chanter ce chant? Mais oui, tu as le droit de le chanter. D'un cœur joyeux, reconnaissant, parce que ton Rédempteur est vivant. Encore aujourd'hui, il agit. Et même si tu te doutes, même si tu doutes, je veux te dire, Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Amen. C'est avec beaucoup de joie qu'on est là ce matin. Même si les circonstances sont un petit peu particulières, mais on se réjouit d'être avec vous. Alors, vous dites, mais c'est bizarre, j'ai peut-être l'impression d'avoir entendu des claquements de mains pendant ce YouTube, pendant que je suis en train de regarder. Et ce matin, en fait, on a la joie d'avoir avec nous toute l'équipe de ménage et d'accueil qui est en train de préparer le retour à l'église. Et si ça aussi vous avez entendu ça, c'est parce qu'ils sont là, on les accueille, et ils sont avec nous au culte, et on a tout préparé pour faire que la reprise se passe au mieux la semaine prochaine. Alors, tant que je suis dans la reprise, j'aimerais vous rappeler un petit peu comment les choses vont se passer et comment on va pouvoir ensemble se retrouver dès la semaine prochaine, à partir du dimanche 12 juillet. Voilà, quelques consignes que nous allons respecter ensemble. Quand vous allez arriver à l'église, il sera essentiel et obligatoire de vous inscrire sur la plateforme d'inscription. La plateforme d'inscription, qu'est-ce que c'est ? C'est un site sur lequel vous pouvez vous inscrire. Vous allez sur le site de l'EPI, et sur le site de l'EPI, vous allez trouver un onglet qui s'appelle « Inscription », et il faut venir. C'est obligatoire, sinon vous ne pouvez pas rentrer. Donc n'hésitez pas, allez dès maintenant. Ceux qui n'ont pas Internet, peut-être que vous avez des amis autour de vous qui souhaitent venir mais qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas suivi les cultes, alors surtout, c'est important, appelez-nous. On est à votre disposition au secrétariat pour vous inscrire. Il y a encore pas mal de places de disponibles. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au culte du 12 juillet. Je vous rappelle, j'en profite pour vous dire qu'on est joignable et on peut vous inscrire. Alors les numéros, ils vont s'afficher. On est joignable au 06 28 13 58 51. Mais aussi sur le fixe, au 03 88 40 26 41. Et ces deux numéros, c'est les numéros auxquels vous pouvez nous joindre. On peut vous inscrire de 9h à midi et de 14h à 17h du lundi au vendredi. On sera une grande joie, je vous assure, de vous inscrire. Donc, inscription obligatoire. Vous allez vous douter que quand on va arriver, on va devoir respecter la distanciation de 1 mètre entre chaque personne. Le port du masque sera obligatoire à partir de 11 ans et durant toute la durée de votre présence à l'église. Et l'équipe d'accueil veillera à cela pour qu'on puisse se protéger les uns les autres. Je vous rappelle que toutes ces règles sont à viser de se protéger et non pas de vous restreindre. Ensuite, nous n'aurons pas de garderie ni de culte pour les enfants et nous ne pourrons pas accueillir les enfants en dessous de 11 ans. Je sais que ça pose problème et on essaye de faire au mieux pour se protéger les uns les autres. Enfin, il sera essentiel de pouvoir se laver les mains à l'entrée. Mais bon, ça, vous connaissez maintenant, c'est un petit peu partout comme cela. Si vous vous inscrivez, merci de respecter votre engagement. Parce que si vous inscrivez puis que vous venez pas, vous prenez la place de quelqu'un d'autre et ça serait tellement dommage. Très important, retenez bien, de 9h30 à 9h55, ça sera le moment où on vous accueille. De 9h30 à 9h55. Pourquoi ? Parce qu'après, il y a le culte en live qui va commencer. Merci de vous inscrire à deux cultes maximum pour permettre au plus grand nombre de participer. J'espère que les règles sont claires, que les consignes sont claires, mais quand vous allez vous inscrire, dans tous les cas, tout va être rappelé. Waouh, ça va ? Vous êtes avec moi, vous avez bien suivi les informations ? C'est chouette. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts à continuer la suite de messages de ce qu'on va vivre à travers la thématique que Raymond Pierre nous a partagée sur « Il est où le bonheur ?» Mais on va partager maintenant ce message et j'aimerais qu'on puisse, à travers la parole de Dieu, qu'on puisse se préparer et qu'on puisse dire « Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix ». Vous voulez bien prier avec moi, de là où vous êtes, ceux qui sont avec nous, mais ceux qui sont derrière leur écran, et dire « Seigneur, je veux entendre ta voix ». Seigneur, merci pour la louange et l'adoration. Merci parce que déjà maintenant, tu nous as fait du bien. Et je te prie qu'à travers le message, tu viennes percuter nos vies. Merci parce que tu es là, présent. Je sais que tu vas bénir le pasteur Raymond Pierre, vraiment que ton onction repose sur lui, afin que ses paroles viennent toucher notre cœur. Merci parce que, Seigneur, quand on se confie en toi, on est rayonnant de joie. Quand nos yeux sont tournés vers toi, on te découvre à nouveau. On n'est plus dans la crainte, mais on est fils et filles du roi des rois. C'est à toi que revient la gloire, l'honneur, la puissance et la force, au siècle des siècles. Amen.
Amen, bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver ce matin, ça fait plaisir aussi de voir quelques têtes dans la salle, ça fait moins bizarre que de prêcher à des chaises vides, mais en tout cas c'est une joie de continuer avec vous cette thématique qu'on a débutée il y a 15 jours, au sujet du véritable bonheur perdu, qu'il est possible de retrouver. Depuis le début de cette série, on a vu comment Jésus s'arrête sur le chemin de nos vies pour nous proposer un bonheur accessible à tous, peu importe notre condition sociale, peu importe notre condition ethnique, mais que nous avons besoin de la saisir, nous avons besoin de saisir ce bonheur pour pouvoir le vivre et l'expérimenter. Le bonheur n'est pas indépendant de nous. Il n'est pas quelque chose qui survient, mais il est quelque chose qui se bâtit malgré les aléas de la vie. Si vous prenez la série en cours de route, nous vous rappelons que l'ensemble de la série est disponible sur la page YouTube, sur Facebook et sur le site internet de l'EPI. Après avoir vu que le bonheur se vivait au travers de la simplicité et de l'humilité, mais aussi qu'il pouvait s'expérimenter au travers des pleurs et de la douleur, nous allons voir ce matin deux autres aspects, deux autres bornes pour marcher sur le chemin du bonheur. Et ces deux bornes sont la recherche de la justice et la miséricorde. Encore aujourd'hui, nous verrons, comme le dit Denis Morissette, que le bonheur et le malheur n'ont rien à voir avec le mérite. Ils sont la manifestation ultime des choix que nous faisons et des conduites que nous adoptons. Premier point ce matin que je veux soulever avec vous, c'est que le bonheur est le résultat d'une recherche constante de justice. Matthieu 5,6 nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ». Comme pour les autres béatitudes, Jésus parle un langage que les gens comprennent et qui rejoint les gens dans leurs conditions. Il rejoint les gens dans ce qu'ils pouvaient être en train de vivre. Parler de faim et de soif est légitime en raison des conditions de vie des gens auxquels Jésus s'adressait. Alors pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas ce que c'est que de mourir de faim et de soif. On ne sait pas ce que ça veut dire. On vit dans une société où l'eau et la nourriture abondent. Mais sous le climat chaud et désertique du Proche-Orient, l'eau et la nourriture sont des denrées précieuses. Avoir un puits pour boire et pour pouvoir abreuver les troupeaux, mais aussi un terrain pour cultiver la terre et pouvoir manger à sa faim, ça constituait un privilège, mais aussi une nécessité essentielle et fondamentale. La faim et la soif sont des réactions machinales pour les êtres vivants que nous sommes. L'eau et la nourriture sont nécessaires à notre subsistance. Et de la même manière, Jésus parle ici d'étancher une soif et une faim, quelque chose qui n'est pas physique, mais qui sont vitales pour notre bien-être et pour notre bonheur. Il est question ici de justice. Le terme qui est employé ici en grec, c'est dikaiosune. C'est une justice qui concerne la vertu, la droiture et l'intégrité morale. Une personne intègre est une personne droite et éprouvée, qui n'a rien à cacher et qui fait ce qui est juste. Ça nous parle d'honnêteté. Ça fait appel au caractère et à la qualité d'un individu. Par exemple, des gens peuvent être surpris lorsqu'un chrétien est à la caisse, et puis que la caissière elle se trompe et qu'elle rend trop d'argent, et puis que le chrétien il regarde la caissière, « Attendez, vous m'en avez rendu un petit peu de trop. » Qui fait ça aujourd'hui? Et on voit qu'il y a des chrétiens, ils le font. C'est-à-dire, « Mais attendez, vous m'avez rendu trop d'argent, alors je vous le rends. » C'est de l'honnêteté, c'est de l'intégrité. C'est un exemple. Jésus nous invite ici à poursuivre, à rechercher cette intégrité, cette quête de faire ce qui est juste. Mais de la même manière que la faim et la soif physique ne sont pas quelque chose qu'on recherche dans nos sociétés occidentales, la justice, l'intégrité morale ne sont plus trop à la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des gens, on dit que ce sont des gens qui sont capables. On dit que c'est des gens qui sont doués. On dit que c'est des gens qui sont compétitifs. Toutes ces notions sont rattachées à la performance et à la productivité. Aujourd'hui, il semble que c'est plus important de faire des choses que d'être quelqu'un. Mais pour la recherche du bonheur, Jésus propose encore un chemin différent, avec des bases différentes, mais qui produisent aussi un résultat différent. La justice dans la Bible se rapporte aussi à Dieu, lui qui exerce le droit de façon juste et équitable. Dans la Bible, la justice revêt au moins trois aspects. On nous parle de justice légale, on nous parle de justice morale et on nous parle de justice sociale. Alors la justice légale, c'est celle qui permet aux chrétiens, aux disciples de Jésus, à tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus, d'être réconciliés avec Dieu. À cause de nos fautes, de nos manquements, de nos erreurs et du mal qui bien souvent nous domine et nous pousse à mal agir, la Bible affirme que le salaire, la sentence, la dette de tout cela, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu, avec de ce Dieu qui est parfait, juste et droit. Mais dans son amour, Dieu nous a voulu avec lui. Et il a offert celui qui était également parfait, celui qui était juste, celui qui était droit, Jésus-Christ, pour payer notre dette à notre place et que nous soyons rendus justes aux yeux de Dieu. Lorsque Dieu le Père nous regarde, il nous voit justes grâce au sacrifice parfait de Jésus pour chacun d'entre nous. Celui qui a soif de cette justice, en Christ, il sera rassasié. Il sera satisfait, il sera comblé. Pourquoi ? Parce que notre justice, elle est en Jésus. Jésus est notre justice. Il est celui qui fait de nous des gens déclarés justes par la foi. Ensuite, il y a la justice morale. Cette justice morale nous parle de tous ceux qui cherchent à manifester dans leur conduite de tous les jours la volonté de Dieu, en se laissant diriger par sa parole, en laissant le Saint-Esprit les conduire. En tant que disciples de Jésus, nous savons que Dieu souhaite nous voir vivre ses standards de vie, que ce soit au niveau individuel, au niveau spirituel, au niveau relationnel, au niveau sexuel, au niveau professionnel, etc. Il y a d'autres sujets. Oui, Dieu désire que nous soyons des maris ou des épouses exemplaires. Il désire que nous soyons des employés fidèles. Il désire que nous soyons des patrons justes. Il désire que nous soyons des amis sincères. Il désire que nous soyons des disciples attachés et dépendants de lui. La justice de Christ est une justice de cœur qui commence au siège de nos pensées, au siège de nos motivations. Nous désirons par nos vies que Jésus soit glorifié. C'est le travail qu'il fait en nous lorsqu'on décide et qu'on le laisse être à la manœuvre, aux commandes de nos vies. Mais la justice ne s'arrête pas là. Le dernier aspect, c'est celui de la justice sociale, qui nous parle de libération de l'oppression, qui nous parle de promouvoir les droits civils, qui nous parle de chercher la justice dans les tribunaux, qui nous parle de l'intégrité dans les affaires, qui nous parle de l'encouragement à une conduite honorable dans les foyers et dans les affaires familiales. La justice sociale, c'est une juste rémunération pour un travail fourni. La justice sociale, c'est de ne pas simplement... Excusez-moi, messieurs, c'est pas simplement aider son épouse dans les tâches de la maison. Elle qui, bien souvent, travaille autant que les hommes dans le monde séculier et qui rentre à la maison, puis encore les tâches de la maison, puis de se dire « Bon ben chérie, je vais t'aider un petit peu ». Non, tu vas pas l'aider un petit peu. C'est les tâches de la maison. Ensemble, on travaille. Ensemble, on fait 35 heures. Ensemble, on porte le foyer. Merci pour le amen au fond de la salle. C'est juste une juste répartition des choses communes. La justice sociale, c'est aussi lutter contre les discriminations de toutes sortes de discriminations. On va en parler un peu plus loin. Donc il ne s'agit pas, quand on est chrétien, d'être fier de nous et de se dire « quel bon chrétien je suis », tout simplement parce que nous sommes fidèles à notre femme, que nous suivons tous les cultes, que nous payons notre, que nous donnons notre offrande, ou que voilà qu'on est là à l'heure, à 10 heures, alors je suis un bon chrétien. Celui qui poursuit la justice fait plus que de ne pas faire de mal. Beaucoup de gens se cantonnent dans une pseudo-droiture en croyant qu'ils ne font rien de mal et qu'ils mènent une vie correcte. C'est Denis Morissette qui dit ça. Vous savez, refuser le bien que l'on pourrait faire, ça contribue à nos malaises intérieurs. Dieu nous appelle à un engagement, à une lutte pour la justice. Luther, le célèbre réformateur, commente ce passage en disant « Vous n'avez pas reçu l'ordre de vous retirer dans un coin ou dans les déserts. Et si vous êtes déjà retiré, revenez en courant de votre retraite et offrez vos mains, vos pieds et tout votre corps. Mettez en jeu tout ce que vous avez, tout ce que vous savez et pouvez. Cela requiert une faim et une soif de justice que rien ne peut réfréner ni rassasier et qui a pour seule préoccupation l'accomplissement et le maintien du droit au mépris de tout obstacle. Si vous ne pouvez pas convertir le monde entier, faites néanmoins ce que vous pouvez faire. » Nous sommes encouragés à avoir faim et soif de justice, non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la société, pour ceux qui nous entourent. Et on arrive à notre deuxième point. Le bonheur passe par la protection de la dignité humaine. L'Église se bat pour la justice pour tous les hommes, car nous voulons honorer l'image de Dieu. Le récit biblique de la création nous dit, dans Genèse 1:27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Qu'est-ce que j'aime ce verset ? Dès le début de l'Écriture, dès le point de départ, Dieu montre que chaque être humain, quelle que soit son origine ethnique, peu importe si c'est un homme ou une femme, si c'est un enfant, reflète l'image de Dieu. Est-ce que ceux qui sont dans la salle peuvent regarder l'autre et dire « quelle belle image de Dieu tu fais ?» Vous pouvez le dire aussi à la maison si vous êtes avec les membres de votre famille ou des amis. Ensemble, nous reflétons l'image de Dieu. Chacun de nous, avec nos particularités, reflétons tous ensemble l'image de notre Créateur. Être son image évoque l'idée de chef-d'œuvre de grande valeur. Et j'ai envie de le dire ce matin, toutes les vies comptent. Toutes les vies comptent. Toutes les vies sont importantes. Le théologien Tim Keller écrira la chose suivante, « Les êtres humains ne sont pas des accidents, ils sont des créations. » Peut-être ce matin, il y a quelqu'un dans cette salle ou derrière Internet qui se dit « Mais moi, j'ai pas été désiré, j'ai pas été voulu. » Sache que si tes parents terrestres ne t'ont pas voulu, ton Dieu, lui, a voulu que tu sois là. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur de parcours. Ton Dieu t'aime, tu es sa création et tu reflètes son image par qui tu es. Chaque vie est précieuse, quel que soit le passé d'une personne. Quel que soit son caractère, et Dieu sait, et ma femme des fois me le dit que j'ai un caractère de cochon, mais quel que soit notre caractère, quel que soit notre passé, tous les êtres humains possèdent une gloire et une valeur irréductibles parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Même si cette image, elle a été entachée, déformée, détériorée par le péché. Je crois que chacun d'entre nous avons été choqués par l'image de cet homme qui est mort asphyxié pendant plus de 8 minutes sous les jambes d'un policier. Tous, on a été affectés par ça. Et je crois qu'il est important de veiller en tant que citoyen à ce que chacun soit protégé contre de mauvais traitements. Même s'il s'agirait, et je ne parle pas de cette histoire-là, mais même s'il s'agirait d'une mauvaise personne. Même le pire des criminels a le droit à un jugement équitable. La réponse à des actes inhumains doivent être des actes rendants de l'humanité. Martin Luther King a dit la chose suivante, « L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. » Parfois, on pourrait se dire, mais celui-là, il le mérite quand même d'avoir reçu. Mais ce n'est pas ça qui va changer le cœur d'un homme. Ce n'est pas ça qui va transformer une société. Alors, je vais quand même faire une petite parenthèse ce matin, elle me semble importante. Est-ce que ça veut dire que toute forme de violence ou de contrainte sont proscrites ? Dans un monde où le péché règne, c'est impossible. Voilà pourquoi, dans sa grâce, Dieu a mis en place les autorités afin de contenir l'avancée du mal. Et c'est Paul qui l'écrira dans Romains 13,4, il dira « Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. » Dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, le théologien C.S. Lewis expliquera à ce sujet que l'homme est parfois en droit de blesser ou même, à mon avis, c'est lui qui le dit, de tuer son semblable, mais seulement en cas d'urgente nécessité et quand le bien à atteindre est évident. Et ordinairement, quoique pas toujours, quand celui qui inflige la peine a une autorité pour le faire. Comme je vous dis, ce contexte, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je suis reconnaissant pour les soldats américains qui sont venus nous libérer de la tyrannie des nazis. Il y a certaines violences qui, même si on ne le souhaite pas, elles sont légitimes pour réfréner le mal. En France, pour la police et pour la gendarmerie, le cadre de l'usage de la force est le suivant. Lorsqu'il y a une atteinte à quelqu'un qui est injustifiée, qui est actuelle sur le moment et qui est réelle, c'est quelque chose, un fait, il se passe quelque chose, la réponse de la police ou des forces de l'ordre doit être nécessaire, simultanée et proportionnée. Ça, c'est le cadre de l'usage d'une violence légitime pour répondre à un mal qui peut être en train de se faire à l'instant T. Donc voilà le cadre, je ferme la parenthèse, c'est pour qu'on ait une idée globale un petit peu de ce sujet. Maintenant, la question à se poser, c'est en tant qu'Église et en tant que disciple de Jésus, comment répondre à cette recherche de la justice sociale pour tous ? Quelle est la place de l'Église locale dans cette recherche de justice ? Je crois que l'Église locale peut répondre à cette soif de justice sur deux plans, sur deux niveaux. D'abord, par l'assistance. L'assistance, c'est quoi ? C'est une aide directe aux besoins physiques, matériels ou financiers immédiats. À l'EPI, on a un pôle social qui fonctionne et qui est destiné à accompagner ceux qui sont dans le besoin afin qu'ils ne manquent pas des choses primordiales comme la nourriture, le vêtement et les produits d'hygiène. Notre désir, c'est de pouvoir rendre de la dignité à des personnes, qu'elles puissent se sentir dignes, qu'elles puissent se sentir comme exister avec des gens qui prennent soin d'elles. Ensuite, ça c'est l'assistance. Ensuite, il y a cette notion aussi de développement. Le but du développement, c'est de donner aux individus et aux familles ce dont ils ont besoin pour passer du stade de « je dépends de quelqu'un qui m'aide » à celui d'une autonomie, d'une certaine autosuffisance. Chez nous, à notre niveau, ça passe par des cours d'initiation à la langue française pour aider les gens qui ne maîtrisent pas la langue et qui viendraient par exemple d'arriver sur le territoire français, de pouvoir apprendre à lire, à parler, à communiquer pour pouvoir ensuite plus tard peut-être postuler pour un travail, etc. Aussi, de manière ponctuelle, on aide certaines personnes dans des démarches administratives. C'est compliqué pour elles et donc du coup on a des gens qui donnent de leur temps pour aider les personnes à s'en sortir au niveau des démarches. Donc ça c'est la partie développement qu'on essaye de faire. Timothy Keller dira la chose suivante, les églises devraient exercer le service d'assistance et un certain ministère de développement parmi les membres, ainsi que dans leur quartier et cité, ce qui est une façon naturelle et cruciale de révéler au monde le caractère de Dieu et d'aimer les personnes évangélisées et instruites dans les voies de Christ. Ensuite, il y a un troisième niveau dans cette poursuite de la justice qui touche au sujet des réformes sociales. Comment changer une mentalité dans une nation, dans une ville, etc. Ça, ça va toucher aux structures sociales de la société qui vont permettre de mettre fin à l'injustice. À ce niveau-là, c'est plus le rôle de l'église institutionnelle ou de l'église, par exemple, locale, comme ici ce matin. Mais ça nous parle ici de l'église organique. Alors rassurez-vous, c'est pas un gros mot. L'église organique, ça correspond à tous les chrétiens, chacun d'entre nous individuellement, qui agissent dans le monde soit de façon individuelle ou au travers d'une organisation, type une association qui vient en aide aux démunis, une ONG qui va servir sur le champ missionnaire quelque part. Je crois vraiment que Dieu dépose des appels dans chaque cœur. Amen. J'ai envie de te poser la question ce matin. Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Qu'est-ce qui t'anime? À l'EPI, nous voulons encourager chacun, chacune à entrer dans ce que Dieu l'appelle à faire. Que ce soit au sein d'un service dans l'église locale, mais ça peut être aussi dans une mission extérieure de l'église. Vous savez, nous sommes l'église là où Dieu nous place. Là où tu es, là où Dieu t'envoie, tu es l'église. Tu représentes ce que Dieu veut faire pour ce monde en souffrance. J'ai envie de vous parler d'une famille ce matin, je ne vais pas citer son nom, mais dans l'église de Colmar où j'étais, qui garde des enfants qui sont placés judiciairement depuis des années. Et vous savez, il y a une complexité avec la loi aujourd'hui d'aller à l'église le dimanche quand on garde un enfant, parce qu'il faut l'autorisation des parents, etc. C'est vraiment compliqué. Et pour eux, c'était une souffrance, parce que du coup, ils ne pouvaient plus aller au culte, le couple, ensemble. C'était chacun leur tour. Et quelque part, parfois, il peut y avoir aussi une certaine forme de culpabilité qui vient à main. Je suis pas à l'église, je suis pas à la réunion. Et je crois que c'est important de dire à ces gens qui servent, mais tu es en train de faire le chant de l'église. Tu es en train de faire l'appel que Dieu t'attend. C'est pas grave si t'es pas à l'église tous les dimanches. Alors je suis pas en train de dire ça à ceux qui ont envie de préférer aller faire de la pétanque aujourd'hui parce qu'il fait beau. Je parle à des gens qui ont un appel de Dieu, une mission bien précise qui leur empêche de pouvoir être présents. Mais Dieu est à leur côté. Et même s'ils voient, ils n'ont pas le bénéfice du moment d'être dans le culte et tous ensemble, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Je connaissais un autre ami qui était infirmier et qui faisait des collectes de médicaments. Et parce qu'il était infirmier, il ne pouvait pas être au culte tous les dimanches. Et vous savez, il y a des mentalités dans l'église. Et dans l'église où il était à l'époque, le pasteur, un jour, a fermé son service de distribution de médicaments parce qu'il n'était pas au culte tous les dimanches alors qu'il était en train de travailler. J'ai envie de dire devant la caméra, pardon pour les erreurs de l'église. Le gars, il était en train de faire l'œuvre de Dieu. Et je crois qu'on n'est pas moins appelé quand on est infirmier que quand on est pasteur. Dieu dépose des appels différents, des champs de mission, il dépose des choses sur votre cœur pour que vous puissiez bénir la ville, que vous puissiez bénir l'endroit où Dieu vous place. Peu importe les dons, les talents, les capacités que Dieu vous a donnés. Si vous êtes en train de faire ce que Dieu attend de vous, vous êtes à la bonne place. Si vous êtes en train de faire ce que Dieu attend de vous, vous êtes en train de faire son œuvre et l'Église et le nom de Jésus est glorifié. Alors pardon pour toutes les erreurs qui ont pu être commises dans le passé. À cause de cette culture parfois de la réunionnite. Et là encore, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas venir au culte. Je suis en train de vous parler de service, du temps que vous accordez. Pendant les prochains mois, y a une équipe qui va servir tous les dimanches. Eux, ils ne vont pas pouvoir bénéficier d'être à l'assistance, au culte, à la louange, parce qu'ils seront en train de vous servir. Ils seront là pour que vous puissiez aussi vivre votre temps avec Dieu. Alors bien sûr, ils auront leur culte aussi à eux, sur d'autres semaines, pour pouvoir aussi être au bénéfice. Mais au moment où ils servent, ils peuvent pas être à fond. Par contre, ils sont à fond pour que les gens vivent une rencontre avec Jésus. Et vraiment, je veux dire merci à tous les équipiers qui sont là ce matin. Vous avez pris de votre temps pour venir répéter, travailler, parce que cette reprise, elle n'est pas simple. Mais merci parce que vous êtes là. Et vous savez que quand nous, on vous voit là, on sent que c'est possible. On sent qu'on va y arriver parce que vous êtes là, parce qu'on n'est pas tout seul. Alors merci à chacun d'entre vous ce matin. Merci pour votre présence. Vraiment, mon cœur, c'est que personne ne culpabilise ce matin des gens qui sont déjà bien engagés de ne pas parfois servir dans l'église locale. Comme je le répète encore, mais Dieu peut vous appeler à servir au-dedans comme au-dehors. Ce qui est important, c'est d'être là, où il veut, où il nous veut, en mettant au service des autres les dons que nous avons reçus. de sa part et de faire ce qui est juste, d'accomplir cette justice de Dieu. Maintenant, pour vivre cette justice de Dieu, nous avons besoin d'expérimenter la miséricorde. Et c'est mon dernier point ce matin. Le bonheur passe par l'exercice de la miséricorde. Matthieu 5, 7, « Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. » Les plus anciennes versions vont dire justement, nous parler de miséricorde. « Heureux les miséricordieux. » Le terme employé ici en grec, c'est « eleemon », qui nous parle de compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Ça fait référence aux personnes qui possèdent cette capacité de ressentir ce que les autres éprouvent dans leur drame, dans leur tragédie ou dans leurs conditions de vie. Ce sont des gens qui se laissent toucher et qui sont remués profondément à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce sont des gens qui se mettent dans la peau de l'autre, qui se mettent dans la peau de la personne. Mais ce n'est pas juste une émotion, ce n'est pas juste « je suis touché ». Mais il ne se passe rien derrière. C'est une émotion qui pousse et qui nous conduit à l'action. Vous savez, si ça reste juste au stade de l'émotion, ça ne va rien changer pour la vie des gens. Vous savez, Jésus n'est pas juste venu donner des consignes de loin, mais il s'est impliqué entièrement par sa vie offerte à la croix pour que nous obtenions la miséricorde. Plusieurs fois dans la Bible, elle nous révèle que Jésus, au contact des gens, était ému de compassion. Le terme grec, c'est splagnitzomai, qui nous dit être remué dans ses entrailles. C'est être remué à l'intérieur de nous-mêmes, et ça, ça nous pousse à l'action. La miséricorde pousse les gens à l'action, à retrousser les manches et à poser des gestes concrets. Le christianisme, c'est démarqué des autres religions par sa préoccupation de ceux qui souffrent, des pauvres, des démunis, des orphelins. On peut prendre juste les exemples de la Croix-Rouge ou de l'Armée du Salut. Tout ça, c'est juste des exemples du cœur de l'Église qui saigne pour ceux qui souffrent. Faisons attention parfois à pas juste juger les situations de loin sans s'impliquer. Vous savez, lorsqu'on s'assoit avec la personne, Et on prend un moment avec elle, qu'on essaie de se mettre à sa place et qu'on cherche à comprendre, alors nos recettes toutes faites se trouvent rapidement désuètes et finalement pas pouvoir répondre aux besoins. Et ça tombe à l'eau. Dieu nous invite à passer à l'action. Maintenant, j'ai envie de nous dire aussi que la miséricorde, ça se passe aussi dans nos relations. Vous savez, la tentation, elle pourrait être grande de ne s'arrêter qu'à des grosses causes humanitaires. Vous savez, bien souvent, on se laisse toucher par les situations au loin. Il suffit qu'on nous montre une petite vidéo avec la bonne musique qui va bien, etc. Et puis on se laisse toucher et on dit « Ah oui, il faut qu'on fasse quelque chose » et c'est très bien. Mais souvent, on va s'arrêter à ces grandes causes humanitaires. On se laisse toucher par ces situations au loin, à l'autre bout du monde. Mais on est inflexible ici. Lorsqu'il s'agit des situations toutes proches à nos côtés. La compassion et la compréhension se passent aussi dans la vie de tous les jours. Ça se passe dans le mariage. Ça se passe avec nos ados difficiles. Ça se passe avec nos collègues de travail, avec qui peut y avoir des tensions. Ça se passe avec les gens de notre famille qui nous ont peut-être fait souffrir. Vous savez, la miséricorde est différente de la grâce, en ce que la grâce est un cadeau qu'on ne mérite pas, et Michel l'a rappelé tout à l'heure, alors que la miséricorde, c'est de ne pas faire ce qu'on mériterait. Dieu nous a aimés et nous a offert sa miséricorde de manière volontaire et gratuite. Il n'était pas obligé envers nous, mais il l'a fait de manière désobligée et gratuite. Des gens nous ont peut-être fait du mal. Des gens nous ont peut-être fait du tort. Peut-être as-tu reçu des paroles ou même des gestes qui t'ont blessé ou qui t'ont détruit. Pourtant, Dieu nous appelle aussi à exercer la miséricorde en ne leur accordant pas, en ne leur donnant pas la vengeance, peut-être la haine qu'ils mériteraient, mais en leur accordant le pardon. Vous savez, il est plus souvent difficile de pardonner que de se laisser aller au ressentiment et à la haine. Vous savez, la miséricorde, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est l'expression d'une force intérieure, d'une force que Dieu seul peut nous communiquer par son esprit. Alors pardonner, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Le pardon ne nie pas que nous sommes peut-être victimes d'une situation. Le pardon, ce n'est pas refaire confiance immédiatement. Vous savez, le pardon s'accorde maintenant. La confiance, c'est quelque chose qui se construit et qui se bâtit au fur et à mesure du temps, en fonction aussi des changements qui sont opérés par ces personnes avec qui on interagit. Je le dis souvent, mais la confiance, c'est comme marcher sur un lac gelé. Alors, il ne faut pas le faire, hein. Ne refaites pas ça cet hiver. En plus, en ce moment, les hivers sont plus très froids et du coup, vous risquez de vous noyer. Mais quand on marche sur un lac gelé, on met un pas et on écoute si la glace est en train de craquer. Et si on entend que ça commence à faire... Et là, on retire tout de suite le pied et on recule. La confiance, c'est pareil. On apprend à fonctionner avec les gens et on écoute ce qui se passe. On écoute jusqu'à quel niveau je peux encore m'ouvrir, à quel niveau je peux encore devenir de plus en plus vulnérable avec les personnes avec qui j'interagis. Certains refusent de pardonner, mais le pardon est indissociable de la miséricorde. C'est lui qui nous permet de nous libérer d'une situation et d'aller de l'avant. Vous savez, le non-pardon et l'amertume, c'est comme un poison qu'on voudrait injecter à celui ou celle qui nous a fait du mal, mais qu'en fait, qu'on s'inocule à nous-mêmes. C'est nous-mêmes que ça pourrit. C'est nous-mêmes que ça détruit. Le pardon et la miséricorde libèrent de ce qui nous a fait si mal. L'amertume et la rancœur nous laissent enfermés et prisonniers du passé, et finalement, ça prolonge indéfiniment la douleur qu'on a subie. Tant qu'on reste enfermé dans le non-pardon, ben, ce qu'on a pu vivre, ça nous trotte. Et vous savez comment ça se passe dans nos têtes, hein ? Des fois, on est occupé par nos pensées et ça vient nous polluer complètement la vie. La miséricorde et le pardon nous libèrent de tout ça, ça nous détache de ces choses qui nous tiennent maintenus à quai et nous permet d'entrer dans le nouveau, d'entrer dans ce que Dieu a placé devant nous. Ça nous libère des prisons du passé. Pardon. Ne laissons pas les blessures que les gens nous ont faites s'infecter en nous par la haine, par le ressentiment et le désir de vengeance. Denis Morissette dira « Les gens qui donnent des coups reçoivent des coups, mais ceux qui font grâce, qui accordent pardon et miséricorde, reçoivent en retour le même enrichissement. » Je vais inviter l'équipe à s'approcher. La miséricorde et le pardon ont la capacité de mettre fin à des cycles de violence et de destruction. Pour terminer, j'ai envie de vous raconter une histoire que j'ai lue il y a 15 jours et qui m'a vraiment interpellé. Il y a un professeur à l'école, qui décide de ramener des ballons de baudruche à ses élèves. Et il demande à ses élèves de gonfler ces ballons. Alors tous les enfants commencent à gonfler les ballons. Et une fois que les ballons sont gonflés, il leur demande à chacun d'écrire leur prénom dessus. Mathieu, Marc, Roger, peu importe. Chacun écrit son nom dessus. Ensuite, les ballons sont lancés dans le couloir. Les élèves sortent et le professeur mélange les ballons. Une fois que le professeur a fini de mélanger les ballons, il va voir les élèves, il leur dit « Je vous donne 5 minutes pour retrouver votre propre ballon. » Alors les élèves se précipitent, ils courent, ils soulèvent, c'est pas le bien, je le jette, je le repose, etc. Parce que c'est pas le leur. Et au bout de 5 minutes, personne n'a son ballon. Personne n'a son ballon. Le professeur leur dit la chose suivante, maintenant on va faire une autre chose. Chacun d'entre vous, allez prendre le ballon qui est le plus proche de vous. Et vous allez le porter à celui dont le nom est écrit dessus. En moins de 2 minutes, chacun avait son ballon. Chacun avait son ballon. Après que les élèves aient pu s'exprimer sur ce qu'ils venaient d'apprendre de cette expérience, le professeur leur a dit ceci. Les ballons sont comme le bonheur. Personne ne le trouvera s'il cherche le sien seulement. Au lieu de cela, si tout le monde se soucie les uns des autres, chacun trouvera son propre bonheur plus aisément. Voilà ce qui se passe quand l'Église décide de répondre à cet appel de faim et soif de justice. Se soucier des autres, se soucier de ceux qui sont à nos côtés. Lorsqu'on vit ces choses-là, on est au bénéfice de la miséricorde de Dieu. Lorsqu'on vit ces choses-là, on est rassasié, on est rempli, parce que notre bonheur passe par celui des autres. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et lorsque je donne pour quelqu'un dans une situation, quelqu'un d'autre aussi me donnera dans une autre situation certainement. Le bonheur se vit à plusieurs. Le bonheur se vit ensemble. Et je crois que c'est la plus belle des réponses que l'Église peut apporter à ce monde en se manifestant de l'amour les uns pour les autres. C'est à ceci que tout le monde verra qu'il y a une différence, que l'œuvre de Jésus en nous, ça fait la différence. Que l'Évangile, c'est pas juste une religion. L'Évangile, c'est une puissance qui amène la vie. C'est une puissance qui amène la restauration dans les relations. C'est une puissance qui ramène à la vie des choses qui étaient mortes. Et ce matin, je veux déclarer que la vie peut revenir dans ton couple, que la vie peut revenir dans ton foyer, que la vie peut revenir dans tes relations avec tes collègues de travail. Sois porteur de vie, sois porteur de miséricorde, sois porteur de pardon. Jésus veut agir en toi. Peut-être des fois ça sera dur, peut-être des fois tu vas pas supporter parce que tu as subi des coups et ces coups ils sont vraiment là. Mais Jésus va te donner une force surnaturelle. L'Esprit de Dieu a choisi d'habiter en chacun d'entre nous. Je ne sais pas si on réalise ça, frères et sœurs. Je ne sais pas si on réalise que Dieu a décidé de faire sa demeure en nous, de se soucier de ce qu'on vit au quotidien et d'être avec nous tous les jours sur le parcours de nos vies, face à nos situations. Jésus ne nous fait pas échapper miraculeusement à tous les problèmes. Mais Jésus chemine avec nous au sein des problèmes pour que la vie se diffuse là où il y a la mort. Ce n'est pas juste d'échapper à des problèmes. Ce que Dieu veut, c'est que la vie soit contagieuse, dans le bon sens du terme. Que la vie se propage, que la mort recule, que les ténèbres reculent, que la lumière de Christ se manifeste. Et ça va passer par chacun d'entre nous, parce qu'il a dit que nous étions la lumière du monde. Nous sommes appelés à refléter sa lumière ce matin. Que nous ayons soif de cette recherche de justice et de miséricorde. Jésus nous montre que le bonheur ne s'obtient pas au travers d'une attitude nombriliste fixée sur nous-mêmes, mais qu'il passe par l'autre. Est-ce que vous pouvez regarder les gens qui sont avec vous dans votre maison ce matin en disant « Mon bonheur passe par toi » et vous dans la salle, vous pouvez vous le dire aussi. Regardez votre voisin et dites « Mon bonheur passe par toi ». Dieu nous appelle à manifester de la compassion pour ceux qui n'ont pas de droit, mais aussi pour ceux qui sont au plus près de nous. Dieu nous appelle à être une voix pour ceux qui n'en ont pas. Dieu nous appelle à être les mains et les pieds de ceux qui ne peuvent plus avancer. La pratique de la justice et la miséricorde ont le pouvoir de briser la puissance du mal. Quelqu'un devrait dire amen. La puissance de briser le mal. Edmund Burke dira la chose suivante: la seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des gens de bien. Dieu nous appelle individuellement, mais je crois que Dieu nous appelle aussi collectivement. Est-ce que je peux vous inviter là où vous êtes, peut-être à vous mettre debout à votre place? Si c'est dans votre cœur de dire « Oui Seigneur, je veux répondre au mandat que tu as fixé sur ma vie. » Peut-être que pour certains ce matin c'est dur parce que Dieu met le doigt sur une situation de pardon avec une personne bien précise. Et je crois que Dieu est en train de te dire ce matin qu'il veut faire de toi son instrument de justice. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur, je sais que tu as été blessé, mais je veux faire de toi mon instrument de justice. Je crois que le Saint-Esprit veut agir. Il veut agir et utiliser l'Église. Les temps sont sombres, les temps sont compliqués. La lumière a besoin de briller davantage. Et Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir briller dans cette génération. Alors que nous puissions être cette Église ici à Strasbourg qui répond à cet appel de la miséricorde, à cet appel de la pratique de la justice. Seigneur, sers-toi de nous. Seigneur, je te prie ce matin pour chacun, chacune. Et Seigneur, on veut être avec, aux côtés de ceux qui pleurent ce matin, qui pleurent la douleur d'une perte, qui pleurent la douleur d'une relation qui s'est vraiment mal terminée, peut-être des gens qui ont vécu un divorce et pour qui c'est dur. On veut pleurer avec vous ce matin. Et on veut invoquer avec vous la miséricorde de Dieu. Cette corde tendue du ciel qui vous sort de votre misère, qui vous sort de votre douleur, qui vous sort de vos larmes. Seigneur, fais grâce. Le Seigneur fait miséricorde encore aujourd'hui. Il est le Dieu des plans B, des plans C, des plans D. Tu n'es pas prisonnier de tes erreurs du passé. Mais ton présent peut changer aujourd'hui par la puissance de Dieu en toi. Il est à tes côtés. Mais en même temps, peut-être que Dieu appelle certains ce matin à un pas. Peut-être le pas du pardon. Peut-être le pas d'exercer la miséricorde. De la même manière que Dieu t'a fait miséricorde, simplement par amour. Dieu t'appelle à te libérer peut-être d'une prison du passé, d'une situation non réglée. De te libérer, comme on l'a dit, pas forcément de refaire confiance. Peut-être que dans certaines situations, ça ne sera plus jamais possible. Mais de libérer, en libérant la personne par ton pardon. Et en allant de l'avant parce que Jésus est à tes côtés. On veut proclamer la vie ce matin. La vie derrière ton écran, la vie ici. On te prie pour les cultes qui vont reprendre place dans les semaines qui arrivent. On te prie pour que chacun, chacune ayons vécu une transformation. Alors que nous allons pouvoir retrouver cette proximité les uns avec les autres. Alors que les ténèbres s'épaississent, Seigneur, nous voulons manifester ta lumière. Oh, pas orgueilleusement, Seigneur, on sait que par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Mais ton esprit, celui qui t'a sorti du tombeau, est à nos côtés. Et tu es capable d'opérer des miracles dans les vies, dans les situations, dans les tragédies les plus sombres ce matin, Seigneur. Je te prie de nous fortifier ensemble, Père, au nom puissant de Jésus. Amen.
Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, qui a fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Ce que je suis me vient de toi, sans fin je te nourris. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix.
Amen.
Amen.
Quel beau message, trouvez pas ? Merci à notre cher collègue Raymond Pierre pour le temps qu'il a pris de préparer toute cette série. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est dans une relation vivante. Merci pour ces bons messages qui nous aident dans notre quotidien. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir traduire dans le concret et de manière pratique tout ce que dit l'Évangile. C'est la raison pour laquelle on nous appelle les évangéliques. Nous sommes particulièrement attachés à ce que l'Évangile s'incarne dans nos vies, que nous puissions le traduire dans des actes, dans des actions de manière tout à fait concrète. On vous salue vraiment tous très très chaleureusement. On pense à une famille qui est un petit peu loin, qui est dans le sud, à notre collègue Anne qui nous regarde en ce moment. Et dans leur salon, ils sont à 9 ce matin derrière l'écran, donc on vous salue bien, mais on vous salue tous aussi. On pense très fort à vous. Et pour ceux qui auront la chance de venir aussi la semaine prochaine, donc merci de respecter toutes les consignes qui vous seront données lors de votre inscription. Merci encore une fois à toute l'équipe technique, merci à l'équipe d'accueil, à l'équipe ménage, tous ceux qui nous accompagnent, qui nous entourent. Nous sommes ensemble une grande équipe. Sans les uns et les autres, nous ne pourrions pas produire ces cultes et nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir travailler dans ce climat de justice, c'est-à-dire dans la complémentarité, dans le respect de ce qu'a reçu les uns et les autres, ce qu'on a reçu, en mettant tout cela en commun pour le mettre au service du plus grand nombre et pour l'intérêt commun. Que Dieu vous bénisse. On va encore prier ensemble et remettre toute cette journée, cette semaine qui s'annonce peut-être difficile pour les uns ou pour les autres. On veut se confier dans le Seigneur et demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique tout ce que nous avons reçu durant ce culte. Seigneur, nous te remercions pour le pasteur Raymond Pierre, te remercions pour la prière, pour la louange, pour la musique, le chant, te remercions pour tout ce qui a pu être dit et fait ce matin, que tout cela serve à nous rapprocher de toi et à mettre en pratique l'Évangile de Jésus-Christ. Merci de bénir tous nos amis, de bénir nos frères et sœurs dans toute cette journée, mais aussi dans cette semaine. Tu connais le travail, tu vois les choses difficiles. Tu vois également ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui souffrent à l'heure actuelle, ceux qui sont en difficulté. Nous pensons à chacun particulièrement, te demandant d'accompagner, d'agir, d'intervenir pour chacun, pour chacune. Et nous te disons merci. Et tout le peuple dit
Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse, un bon dimanche et une excellente semaine.